بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. Dans ce hadith, mes chers frères en islam, on a vu il y a quelques mois que le prophète alayhi salat wa salam avait annoncé la position honorifique de cette catégorie de personnes le jour des comptes. Et parmi ces sept catégories de personnes, Allah nous a donné le tawfiq de développer premièrement Imam Adil, la personne juste, le roi, le dirigeant ou le amir même. Certains savants, ils parlent même du amir, celui qui est à la tête d'une communauté ou d'un groupe de personnes, mais qui fait preuve de justice, d'équité et qui ne penche pas d'un côté ou d'un autre par rapport à ses sentiments, par rapport à ses attaches avec la personne, par rapport à d'autres critères, si ce n'est la volonté de rechercher le contentement d'Allah et l'équité, la justice entre les gens. On a pu également développer une autre thématique qui nous intéresse un peu plus, hein, la personne qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. On avait expliqué pourquoi est-ce que cette personne sera sous l'ombre du trône d'Allah le jour des comptes, sachant que dans la jeunesse, il y a plus de tentations, il y a plus de facilité à aller vers le péché, il y a plus d'appels vers le mal. Celui qui arrive à se contrôler dans ces moments difficiles et sait faire passer l'amour d'Allah, la crainte d'Allah avant ses pulsions, avant ce qu'il a envie de faire, cette personne-là est appréciée par Allah Azza wa Jal. Et on avait bien expliqué que l'accomplissement de bonnes actions, certes, c'est quelque chose de recherché. Il est bien de faire de bonnes actions, mais il est également bien de s'éloigner du haram. Et on pourrait même dire que s'éloigner des péchés est beaucoup plus difficile parfois que de faire de bonnes actions. Et ça, on ne le répétera jamais assez, que dans les périodes intenses de ibadah, comme le mois de Ramadan par exemple qui arrive, beaucoup de gens font de bonnes actions. Énormément de personnes viennent à la masjid, alhamdoulilah, ils font la tarawih, ils font de bonnes choses, de bonnes œuvres, ils jeûnent, l'intégralité des musulmans jeûnent, on fait la prière de la nuit, parfois le qiyamul layl, donc les bonnes actions sont au rendez-vous. Maintenant, combien de personnes est capable de rester loin du haram? Ça, c'est autre chose. Il y a un jeune qui écrivait un statut de Facebook aujourd'hui, il disait que, bon, j'ai pas mémorisé, il y avait d'autres choses aussi à faire, il disait que voilà, il y en a qui me reprochent d'écouter du rap. Un jeune qui aime bien le rap, parce que quelqu'un a lu le statut, d'accord, bon, plutôt du côté droit que du côté gauche, barakallahu fik. Un jeune qui écrit, moi j'aime le rap, mais je suis pas d'accord qu'il y a des gens qui me font la reproche que ouais, n'écoute pas la musique, c'est pas bon pour ton cœur, c'est pas bon pour ta foi, ça va perturber ta relation avec Allah, alors que même ils sont dans l'adultère, ils sont dans l'intérêt du matin jusqu'au soir. Une parole véridique. En même temps, on ne peut pas condamner cette manière de voir les choses, mais en même temps, on ne peut pas non plus cautionner ce jeune. Donc la réponse qu'on a fait, et Allah seul sait comment on a pu intervenir sur ce genre de réseau, on perd beaucoup plus de temps qu'on en gagne. Et on a dit que le péché de ton prochain ne doit pas te conforter dans tes péchés. C'est pas parce que mon voisin il fait plus de péchés que moi que ça doit me réconforter, tout compte fait c'est pas grave, et me conforter, m'encourager à faire le péché. Par exemple, si une personne, on donne un exemple beaucoup plus accessible, une personne a du mal à venir à Salatul Fajr à la mosquée, à la masjid, d'accord? Et si la personne se dit que bon, j'ai du mal à venir à la Fajr, à la masjid, mais j'ai un voisin, il vient jamais, il vient que le Salatul Jum'a. Donc c'est pas grave. Moi je viens Maghrib Isha, 2 salats par jour, parce que Fajr, je dors, j'ai beaucoup de sommeil rattrapé, parce que je me couche très tard, il y a tellement de choses à regarder à la télé. Et Zohar, je suis au lycée ou à l'université ou au travail. Asar, on ne peut pas me demander de quitter le bureau, ou alors je sors de l'école, bref. Maghrib, je suis là, parce que j'ai plein d'amis à voir aussi. Je ne peux pas les laisser comme ça. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à se dire après la salat. Donc je suis là Maghrib et Isha. Aïcha tranquille, s'il n'y a pas Ligue des Champions, si le match ne se joue pas à l'extérieur et que c'est des heures correctes, je suis là, d'accord? Donc je fais Maghrib Aïcha en congrégation, en Jama'at, alors que mon voisin il est là que le Jumu'ah. C'est l'hypocrite du quartier. Donc c'est pas grave. Ça c'est un piège, un classico de shaitan. Ça c'est un waswasa de shaitan qui nous tire vers le bas. Et je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait cité un hadith une fois que parmi les personnes qui seront considérées comme les gens pieux, il y aura celui et les gens reconnaissants, pieux et reconnaissants, deux critères. Et il y a parmi ces gens-là ceux qui, dans les bienfaits, alors on va commencer dans l'ordre, ceux qui, dans les actes de bonnes, les actes de bienfaisance, dans les bonnes actions, regardent toujours ceux qui sont au-dessus de lui. Quand quelqu'un a besoin de faire une bonne action, il doit regarder celui qui fait plus, afin qu'il pousse vers le haut, afin qu'il, mashallah, il essaie de faire encore plus de bonnes œuvres. Aujourd'hui, il y a une personne qui m'appelle, me dit, Adi, eh ben ça m'a profondément choqué, dans le bon sens. Il m'a dit que voilà, la personne m'explique, c'est un ami, il m'a dit que voilà, depuis un mois, on prépare la salat al-Tarawih en famille. La prière de Tarawih, on prépare en famille. De quelle façon on fait un khatm al-Qur'an dans le tahajjud? Magnifique. Bon, si on fait organiser à la masjid, ça devient bid'a. Mais si on le fait individuellement, quelqu'un fait tahajjud, il lit le Qur'an. Il lit l'intégralité du Qur'an. Je ne sais pas, on va dire un juz. Alhamdulillah, khair wa ni'ma. D'accord? Et la personne me dit, voilà, on va terminer tout à l'heure. Viens nous assister, viens avec nous. Je me suis dit qu'Allahu Akbar. Et c'est des... Subhanallah. Un ami, d'accord? C'est pas un alim. C'est pas un mufti, c'est pas, subhanallah, quelqu'un qui fait des discours, c'est pas quelqu'un qui donne des conseils comme nous on le fait, sans tout le temps le mettre en pratique. Là, je me dis qu'Allah Akbar, il y a parfois des gens qui font de bonnes actions et qu'on ne doute pas. Et moi, quand j'entends, je dis à la personne, bon, il finit samedi. Je dis, quelle heure il faut venir? Il me dit 4h30. Je dis 4h30. Il dit oui, mais dit, on commence à 4h, 4h15. Donc ça veut dire qu'ils lisent au moins un juz, c'est-à-dire un skipara, au moins dans le tahajjud. C'est hajib ça. Qui c'est qui fait ça de nos jours? Inch'Allah. Et donc moi quand j'entends ça, ben, je culpabilise. Je dis subhanallah, on connaît le Coran par cœur, on a la possibilité, c'est pas la santé qui manque, alhamdoulilah, on n'est pas vieux, on n'est pas, mashallah, et voilà, on ne le fait pas. Et donc, enfin, anecdotique, ce que je vous raconte. Mais quand on entend un récit comme ça, on voit quelqu'un qui fait de bonnes actions, on voit quelqu'un qui, mashallah, il fait de bonnes choses, ça doit nous encourager, nous motiver. Je dis, subhanallah, lui, il est capable de faire, bien qu'il a été choisi par Allah pour faire de bonnes actions, ben moi aussi, je dois faire la même chose. Je dois essayer de me motiver. On doit essayer de se motiver mutuellement dans les bonnes œuvres. Et par contre, quand on voit, donc ça c'est une des catégories, ça c'est une qualité du croyant, quand il s'agit de bonnes œuvres, de bonnes actions, il regarde toujours celui qui fait plus que lui. Pour essayer, inshallah, d'augmenter son niveau. Parce que vous savez, mes chers frères, la pire des choses, c'est de stagner. La pire des choses, c'est de considérer que le dîn est acquis, que notre iman est 100% intégré, c'est comme un fichier qu'on a téléchargé, il est dans le cœur, et qu'on va mourir avec ce fichier. Et que nos actions, on les accomplit périodiquement, les prières c'est 5 fois par jour, la zakat c'est une fois par an, le ramadan c'est 30 jours par an, et le hajj une fois de la vie, umrah quelques fois, et c'est ça le dîn, ça c'est la pire des choses. Quand quelqu'un a l'impression que il est, mashallah, dans le droit chemin, il fait tout comme il faut. Certes, il y a un sahaba qui était venu voir le prophète sallam et dit au prophète d'Allah, quelles sont les obligations sur le musulman? Et le prophète sallam cite les 5 piliers. Le sahaba dit, c'est un bédouin. Il venait donc du désert et dit qu'au prophète d'Allah, je jure que je ne fais que ça. Je ne fais rien de plus. Le prophète dit, si vous voulez voir quelqu'un du paradis, voyez cette personne. Mais les savants expliquent, quand un sahaba il fait salat, c'est quoi? Quand un sahaba il fait salat, c'est quoi? Quand un subhanallah, quelqu'un qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait deux raka'at, deux unités de prière, il a donc un degré de iman, le sohba, le simple fait d'avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam une seconde, et là je dis le sohba en vrai, hein, pas celui qui dit j'ai rêvé ou alors dans mes... D'accord? Réellement celui qui a été en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam une seconde, subhanallah, les ulama disent que la poussière qu'il y a sous les chaussures de Muawiya valent plus que Umar ibn Abdel Aziz. On connaît Umar ibn Abdel Aziz, un des hommes les plus justes de l'humanité, de cette Ummah. Il dit que la poussière qu'il y a sous les chaussures de Muawiya, excusez-moi, Muawiya, vous savez, c'est des divergences sur lui parmi, pas les sunnah, ceux qui ne sont pas des Ahlus Sunnah, ils ont divergence sur Muawiya, donc c'est un sahaba qui est contesté malheureusement, contrairement à Ahlus Sunnah et Jama'a, je précise. Mais donc, la poussière sous les chaussures de Muawiya valent plus que Umar ibn Abdel Aziz. Pourquoi? Parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sahaba qui fait ses 5 piliers, c'est un autre niveau. Et ça, on avait expliqué la dernière fois, la salat d'Abu Bakr al-Siddiq, est-ce qu'elle est comparable à notre salat? Sa dévotion, sa concentration, d'accord? Donc, pour revenir à ce qu'on disait, pour pas trop s'éparpiller, quand on voit quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, on voit une personne, subhanallah, tous les jours, à Masjid Nur Islam, à Saint-Denis, après Salatul Dhuhr, je vois un jeune tous les jours, mais tous les jours, même les dimanches, il lit Coran, mashallah. Depuis que la salat est terminée, on a le temps de compléter les rawatib et tout, de partir, il lit mashallah, tous les jours. Et moi, quand je vois ce genre d'action, je dis mashallah. Et on demande à Allah de nous interoffrir de faire pareil. C'est-à-dire que le croyant, c'est ça également, avoir un cœur ouvert, un cœur pur, être toujours à la recherche de la perfection. C'est pas que je me dis que moi je suis comme ci, comme ça, et un point c'est tout, les autres c'est n'importe quoi. Moi, je suis le seul sur le droit chemin. À moi-même, il connaît tout, à moi-même, il fait les bonnes choses. Moi, je suis d'une grande famille. Et ben, là, wallah, avec n'importe quelle personne, on doit être capable de tirer des leçons. On voit une personne qui est en train de faire doua, des invocations, mashallah, pendant longtemps. Il y a quelques jours de cela, je suis en train de faire salat al-dhar, les rawatib, les sunnah après salat. Il y a quelqu'un qui faisait les doua, j'ai eu le temps de compléter ma salat, etc. La personne était toujours en train de faire doua. Je dis, mashallah, ça c'est des doua avec dévotion. Vous voyez, la personne qui était concentrée. Bref, tout ça c'est des anecdotes de la vie. Quand on voit quelqu'un faire de bonnes œuvres, ça doit nous motiver. Nous donner envie que nous aussi on veut faire ça. Parce que celui qui est en train d'exceller, de se dépasser dans le dua, dans la tahajjud, qiyamul layl, dans la lecture du Coran, ou dans la sadaqa, on voit quelqu'un qui donne à la masjid, qui donne beaucoup, d'accord? Quand on voit ce genre d'action, on doit comprendre que c'est des gens qui ont été choisis par Allah pour faire de bonnes œuvres. Donc je dois me sentir frustré, oui, c'est le mot, je dois être jaloux. Et là on a le droit d'être jaloux. Je dois être jaloux, mais pas de mauvais sens, que pourquoi? Lui, il peut faire, moi, je peux pas faire, et donc ça doit me motiver. Je donne un exemple, Quelqu'un, un ami à vous, il se marie, il invite plein de gens. Plein de gens dans un endroit où on mange bien, vous voyez, on mange pas de palmiste, ça ne disait pas auquel endroit, d'accord? Et il vous a pas invité. Qu'est-ce qu'on ressent de le cœur? Ah bon? Ali, ça tape son salade palmiste, son poisson gingembre avec son brochette camaron, vous savez, c'est quel établissement on parle, d'accord? Bref, on dit que lui, il est invité, lui, il va là-bas, lui, il profite, et moi, pourquoi j'ai été écarté? Ça, c'est le sentiment humain, d'accord? Parce que on sait qu'est-ce qu'il y a comme bienfait. C'est un plaisir immédiat. Manger, boire, s'amuser, être avec des gens, bref, d'accord? Mais quand je vois quelqu'un dans des bonnes œuvres, et que moi je n'ai pas tawfiq, Allah ne m'accepte pas, et je dis bien, je n'ai pas eu tawfiq de le faire, Allah ne m'a pas choisi pour le faire, je dois ressentir une jalousie intérieure, dans le bon sens, une frustration. Pourquoi lui il peut faire? Pourquoi moi je ne fais pas? Et donc je vais essayer de me motiver. De quelle façon? Premièrement, en levant les mains, demandant doua Allah Azza wa Jal, ou Allah accepte-moi pour faire telle bonne action, pour faire telle chose. Et ensuite, commencer à faire des efforts. Et là, ça rejoint le hadith, lorsque le prophète dit que celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui. Celui qui s'approche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui vient vers Allah en marchant, Allah vient vers lui en harwala, en courant. Ou comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'Allah attend le premier pas qu'on fait, l'effort qu'on va faire. Par exemple, moi, une personne qui a vu ce jeune ou ces gens-là se lever 4h30 du matin pour faire qiyamul layl, la réaction ce serait quoi? De lever les mains, demander oh Allah, accepte-moi comme tu as accepté Mohammed, Ishaq, Ismaïl, Abdurrahman, Bilal, etc. Oh Allah, accepte-moi pour faire partie de tes pieux serviteurs qui se lèvent la nuit. Tatajafa junubuhum, complété Abdurrahman, Anil Mabaji', se réveille, yad'un rabbahum, khawfan wa tama'a. Ça c'est les pieux serviteurs d'Allah se réveillent, leur flanc quitte leur lit, ils vont demander doigts, invocation avec espoir et crainte. Ça c'est Ibad al-Rahman. Ça c'est les qualités des serviteurs d'Allah. C'est pas uniquement rentrer et sortir dans masjid 5 fois par jour, certes c'est les piliers, mais si on veut se dépasser, on veut atteindre les hauts degrés de la foi, ben c'est comme ça. C'est par le biais des actions. Après, il y a des gens qui vont rechercher la piété par des actions qui n'ont jamais existé. Là, c'est grave. Là, c'est talbis iblis. Il va faire tel azkar, il va faire telle chose que le prophète n'a jamais fait. Que les sahaba n'ont jamais fait, les tabi'in n'ont jamais fait. Et puis, il dit, moi, je suis Hanafi. Lui, il est Shafi'i, lui, il est Maliki. Mon frère Abu Hanifa n'a pas fait. Imam Shafi'i n'a pas fait. Imam Malik n'a pas fait. Il dit que oui, moi, je regarde Bukhari, Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim. Bref, ça, c'est un piège de shaitan. Il nous fait dévier par d'autres actions qui n'ont pas été accomplis par le meilleur des hommes, et on oublie l'essentiel. Le prophète sallam avait dit aux sahaba, en arrivant à Madina Munawara, voulez-vous que je vous indique les actions qui vous font entrer au paradis? Qui n'aimerait pas savoir? Si quelqu'un nous pose cette question-là, tout le monde doit rester en attente. J'aimerais savoir. Ah oui. C'est comme si que on disait un grand économiste ou un grand financier, je sais pas quoi, il vient et vous dit que voilà, je vous donne les clés de la réussite. Vous avez 100 euros en poche, je vous donne la clé avec 100 euros, vous investissez demain dans tel secteur, dimanche, vous multipliez votre investissement par 10. Tout le monde reste là. Je dis que si je vous dis, je vais vous dire dans 2 heures de temps. Tout le monde va rester. Parce qu'on sait que, subhanallah, je peux multiplier mes gains par 10. Donc, on a une motivation. Ça, c'est dunya. Quand le prophète, alayhi salat wa sallam, du sahaba, je vous enseigne les actions par lesquelles vous entrerez au paradis, bisalam, en paix tranquillement. Donner à manger aux gens. Prier la nuit, wa nasu, niyam, alors que les gens dorment. Se lever pour qiyamul layl, se lever pour tahajjud. Donc, on est en train de s'éparpiller, on va essayer de revenir de force via la thématique. Donc, mes chers frères, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est quand on voit des gens accomplir de bonnes actions, ça doit être une source de motivation. Et ça fait partie des qualités du croyant. Par rapport aux bonnes actions, la personne regarde ceux qui sont au-dessus de lui, il essaie d'imiter pour avancer. Et la pire des choses, encore une fois, on le dit, c'est stagner. Ça sent bon, hein? La pire des choses, moi je sens de très loin, donc quand il y a une bonne odeur. La pire des choses, c'est quoi? C'est que mon 29 Sha'ban ressemble à mon 2 Shawwal. Ça dit à quoi, Asa Abdurrahman? C'est-à-dire que le 29 Sha'ban, je fais les actions de base du musulman, et que le 2 Shawwal, je fais les mêmes choses. Même si entre les deux, je me suis dépassé. Même si entre les deux, c'est-à-dire de le mois de Ramadan, je faisais, mashallah, 10 juz par jour. 10 sipara par jour. C'est excellent. On ne va pas dire que ce n'est pas bon. C'est excellent. Je faisais tahajjud tous les soirs. Je faisais des invocations du'a, Allahu Akbar, 30 minutes avant la rupture du jeûne. Je faisais shurukh le matin. Je faisais fajr en jamaat, bien sûr. Je lisais le Coran, dhikrullah, je faisais shurukh et ensuite j'allais au travail. Ce sont là de bonnes choses, de bonnes œuvres. Mais si après le Ramadan, ma situation revient exactement comme avant le mois de Ramadan, c'est un constat d'échec. Ça, la taqwa, la proximité d'Allah, ça se travaille tous les jours. Donc, quand quelqu'un entend qu'une personne fait une bonne action, je reviens à ce que j'ai dit, en résumé, on doit demander à Allah, accepte-moi pour faire cette action. Et ensuite, comme on a dit, celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait deux pas vers lui, ben on essaie de faire un effort. De quelle façon? Il n'y a pas 50 solutions, je mets mon réveil demain à 4h30. Et si je ne me suis pas réveillé, quel est le mas'ala? Qui me rappelle? La personne qui a l'intention de faire une bonne action, même si elle ne le fait pas, Allah ordonne aux anges d'inscrire les récompenses dans ce livret de compte. Il suffit qu'Abdurrahman ait l'intention et qu'il met son réveil demain à 4h30, jusqu'à quelle heure peut faire 5h35, non? Subh Sadiq. Ayallah, c'est 4h30, c'est un peu dur. Si quelqu'un, il fait l'intention, il met son réveil 5h10, le temps il fait son wuzu, si ben jeune a besoin de baigner, il baigne, d'accord, et puis il fait de la rakat de prière. Si la personne a fait le niya, ben ce soir avant de dormir, khalas, il a les récompenses de qiyamul layl. Ajib ça. Et je veux dire qu'il ne s'est pas réveillé, hein. Il s'est réveillé pour le fajr, mais il avait l'intention de le faire. Bas, avec le niya, Allah vous donne la récompense. Et maintenant, s'il se réveille et qu'il l'accomplit, au minimum, la personne est rétribuée combien de fois? Al-hasanatu bi 'ashri amthaliha. Man ja'a bil-hasanati falahu 'ashru. Hadith et Quran qui dit que l'action vaut 10 fois. Les ulama disent 10 fois, c'est au minimum. Au minimum, Allah nous rétribue 10 fois. Donc, en même temps, le cœur. Encore une fois, tout vient du cœur. On était en train d'insister là-dessus dans notre programme hier en parlant de Al-Iman ou Billah. Croire en Allah, travailler l'aqidah, les croyances du mu'min, ça c'est extrêmement important. Tout démarre du cœur. Si le cœur est propre, si le cœur est pur, les membres vont suivre. Si dans ce cœur-là on a fait entrer ta'zimullah, la grandeur d'Allah, muhabbatullah, l'amour d'Allah, khashyatullah, la crainte d'Allah. 3 choses. Et plus encore, les membres vont suivre et les actions vont venir automatiquement. Donc, dans mon cœur, je dois avoir l'envie de me rapprocher d'Allah. S'il n'y a pas de talab, s'il n'y a pas d'envie à la base, on n'ira pas loin. Le cœur doit brûler d'amour pour Allah, envie de se rapprocher d'Allah et chercher tous les moyens pour avoir la proximité d'Allah. Demandez, oh Allah, accepte-moi pour qiyamul layl. Qui fait le niya, Inch'Allah, demain de réveiller? Moi, je fais le niya, Inch'Allah. Inch'Allah, on fait tous l'intention demain, pour ce soir, avant de dormir. On met notre réveil pour réveiller à au moins à 5h10 pour faire 2 rak'at et demander doua. Les doigts, dernier tiers de la nuit, mes chers frères, c'est accepté par Allah. Allah demande, le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, le même qui a exaucé le doigt de nos prophètes alayhi salatu wassalam, le doigt de Moussa alayhi salam, le doigt de Ibrahim alayhi salam, le doigt de Nuh alayhi salam, le doigt de tous les anbiya. Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, celui qui a dit au prophète, qui a révélé, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, il suffit de demander qu'Allah accepte. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Vous demandez, Allah accepte, exauce. Ce créateur, le dernier tiers de l'akhiratul layl, le dernier tiers de la nuit, il demande qui a besoin de quelque chose en ce sens. Qui a besoin? Hal min mustaghfirin. Est-ce qu'il y a des gens qui demandent pardon? Que je leur accorde le pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose? Subhanallah. À ce moment-là, on lève les mains. On a tellement de soucis. On voit les visages de chaque personne. Si on pouvait décrypter à travers un scanner, on verrait que chaque personne un souci. Lui veut se marier, lui il a besoin de réussir sur son diplôme, lui il est, etc. Chaque personne a un souci. Celui-là il a des dettes, celui-là il a la recherche d'un travail, celui-là il a des problèmes avec sa femme. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas un souci, une obsession. Ça j'aime bien dire. Il n'y a pas une personne qui n'a pas une obsession, une crainte. Il n'y a pas une personne qui n'a pas un rêve. On a tous une crainte. On a tous quelque chose qui nous fatigue, qui pourrit notre vie et on aimerait trouver une solution à ça. Ça peut être un problème avec madame, avec les enfants, ça peut être un problème avec notre magasin, avec nos revenus, avec nos voisins, avec peu importe, notre santé, d'accord? Et il n'y a pas une personne qui n'a pas un rêve, qui souhaiterait tellement que telle chose se réalise. Mais mes chers frères, à qui doit-on livrer tous nos secrets? À qui doit-on demander d'enlever al-kurubat, les choses difficiles, et d'exaucer nos rêves, nos désirs, si ce n'est pas Allah Azza wa Jal? C'est pour ça que l'action, la dua, c'est l'ibad. L'invocation, c'est l'acte d'adoration parce qu'il y a la soumission à tadallul khudu'. Il y a la soumission totale à Allah. Il y a la reconnaissance qu'Allah est au-dessus de moi. Je suis rien, je suis makhlouq, créature. Je lève mes mains, j'ai besoin d'Allah pour exaucer mes demandes. Donc, on fait tous, inshallah, l'intention pour revenir à l'histoire de Qiyamul Layl, de se réveiller. Et à ce moment-là, les doigts qu'on a besoin, les choses qui nous angoissent, les rêves que nous avons dans notre vie, c'est à ce moment-là qu'on le demande. C'est à ce moment-là qu'on s'adresse à Allah Azza wa Jal. Imaginez, je vous donne un exemple, c'est pas un hadith, c'est pas même pas un exemple que le prophète m'a donné. Vous faites dua avec tout le monde réveillé le matin. Mais Allah, il est Ghafour Rahim et Allah, il est riche. Donc l'exemple ne colle pas trop, mais je vous donne un exemple. Vous allez voir quelqu'un d'un bureau, quelqu'un besoin de la CAF, besoin de la Sécu, à un moment où tout le monde est là, il y a 300 personnes. Il fait la queue, il attend son tour, il essaie d'avoir son ticket, fait passer un dossier très important, très complexe. La personne a besoin de gérer 200 personnes en 60 minutes. Est-ce qu'il va vous donner 20 minutes, 30 minutes? Il ne peut pas. Alors que imaginez, vous avez un créneau spécial avant l'ouverture des bureaux. À 6 heures du matin, vous savez que la personne est là, il est en train de préparer ses papiers, ses documents. Et là, il vous dit, viens. Il ouvre la porte, il vous fait entrer, il ferme, il n'y a personne. Il vous consacre le temps que vous voulez. Il vous écoute, il exauce et il regarde votre dossier. C'est une image, d'accord? Et Allah, vous pouvez demander seul devant la Kaaba ou avec 10 millions de personnes. Allah exauce, ça y a rien à dire. Mais comprenez que quand il y a un mujahada, quand il y a un effort, la personne se réveille pour la prière de la nuit, il demande doua, on a grand espoir qu'Allah exauce parce qu'Allah l'a promis qu'à ce moment-là, Allah accepte les doua. Beaucoup de gens qui se font du souci pour leurs enfants, beaucoup de problèmes d'éducation, de délinquance, etc., etc. Certes, il faut recadrer. L'éducation, c'est par les actions, c'est par les paroles, c'est par le biais de l'enseignant, la madrasa, le alim, etc., etc. Mais l'éducation, ça commence également par la prière de la nuit. Des parents qui se lèvent dans la nuit, qui demandent à Allah pour leurs enfants, pour qu'ils restent dans le droit chemin, pour qu'ils ne sortent pas de l'éducation qu'ils les ont donnée et qu'ils ne fassent pas des bêtises, pas de haram. C'est-à-dire que je répète tout le temps la même chose, mais quand on voit les collégiens, ça fait peur, wallah, ça fait peur. Quand on voit les jeunes garçons comme filles, hein, c'est de le même sac maintenant, arrivés en 6e, en 5e, jusqu'à où ça peut aller. Quand on parle de sexualité à 13 ans, c'est grave, c'est très grave. Donc chaque parent hein, qui a des enfants, soit de cet âge ou qui sont encore plus jeunes, qui vont grandir, qui vont aller au collège bientôt, ils doivent avoir peur. Ils doivent avoir peur. Ce serait lâche et hypocrite de se dire que nos enfants, ça va, bon, ben, il y a l'éducation à la maison et Allah les protège. Ali. Ce serait lâche de laisser les enfants, de les livrer à la société et de ne pas avoir un droit de regard dessus. Et de ne pas se réveiller la nuit, demander, oh Allah, protège mes enfants. Oh Allah, on vit dans un pays où l'ambiance, le contexte est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Il a besoin d'éducation, il a besoin de travailler, il a besoin d'avoir une situation de sa vie. Oh Allah, il y a le fitna, il y a le haram, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a le zina, il y a tout ce qu'il ne faut pas autour de ces établissements, protège mon enfant. Un papa, une maman doit implorer Allah pour qu'il protège ses enfants. Donc quand on voit quelqu'un faire une bonne action, on doit avoir l'envie de le faire. Et quand on voit par exemple, pour revenir, tout compte fait, le programme c'était autour de ce statut de Facebook, mais c'était nécessaire de le développer. Et quand on voit quelqu'un de le péché, en aucun cas on doit se dire que ben, lui il fait pire que moi, donc je peux continuer mon péché. Là, wallah. Quand on voit quelqu'un faire un péché, le reflet c'est de faire da'wah, de l'inviter, de le faire comprendre que c'est pas bien. Et le musulman, le croyant doit être le miroir, un miroir pour son prochain. J'essaie de voir dans les erreurs qu'il fait, qui sautent aux yeux, qui sont apparents, j'essaie de voir si je ne trouve pas mon reflet. Est-ce qu'il n'y a pas un péché que j'accomplis moi-même et que là je vois chez mon frère sur mon prochain, et se corriger par cette façon. Donc, en aucun cas ne pas tomber dans le piège de Shaitan, qui nous conforte dans notre position, parce que voilà, l'autre fait des péchés plus graves, donc ce que je fais moi, c'est moins grave. Donc je peux continuer, là, wallah. Le croyant, il sait toujours de se rapprocher d'Allah. Parce que si on se conforte dans nos péchés, c'est-à-dire que j'accepte jour après jour de continuer à désobéir à Allah. C'est exactement ça. Il faut mettre d'autres termes sur nos péchés. Chaque péché, le péché que je fais tous les jours, c'est une désobéissance envers Allah. Je donne un exemple, hein, et je ne vise personne. Si tout le matin en me réveillant, la première chose que je fais, c'est je me rase la barbe. Je dois me faire propre parce que je vis dans ma chambre, je travaille ça. Je me dis que tout le matin, je me réveille avec un péché. Tout le matin, je me réveille et je m'éloigne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je fais une action contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je m'éloigne d'Allah. Parce que, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. On aime Allah, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'éloigne du modèle prophétique, assurément on s'éloigne d'Allah. Et quelle que soit la nature des péchés, si la première chose que je fais, c'est arriver à mon bureau, c'est faire la bise à mes collègues, donner la main, on fait telle chose, qu'Allah nous pardonne nos erreurs nous-mêmes, mais je dois me dire que tout ça, c'est des erreurs. Tout ça, c'est des péchés, et à un moment donné, il faut se réveiller. À un moment donné, il faut commencer à corriger ses erreurs. À un moment donné, il faut commencer à penser que quand je vais être devant Allah, je vais dire quoi ? Je vais dire que j'avais besoin de ce travail, ou je vais dire que voilà, la société était comme ça. Ça, c'est des excuses qui passent avec, comment ça, Jean-Paul Jacques, je sais pas quoi, avec Moulissa Bintel, Moufti Intel, il vous fait une remarque, etc. Il dit non, ben, vous voyez, de riche, carré, voilà, c'est fini. Mais devant Allah, est-ce qu'on peut faire ça ? Le Coran il est même dit que la personne, le ayat sur la hijra, si quelqu'un se rappelle, Allahu Akbar, la personne qui était dans un pays où il faisait des péchés, et il prendra comme excuse le fait qu'il n'avait pas la possibilité de faire autre chose. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Il y a le verset avant, j'ai pas en tête, mais on lui fera la reproche. Inna alladhina tawaffahum al-mala'ikatu dhalimi anfusihim qalu fi ma kuntum. Ces gens qui ont été dans les erreurs, on ne va pas faire le tafsir, et leurs excuses, c'est que voilà, on était affaibli, on était en une position d'infériorité, d'accord. Mais si vraiment vous êtes dans un endroit où il y a le péché partout, il est impossible de ne pas être dans le haram, allez voir ailleurs. C'est-à-dire que, gardons cet exemple en tête pour comprendre que, même par rapport à ça, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse que d'être entouré de péchés et de faire des péchés. Jamais de la vie. Au contraire, ça doit être un défi. Ça doit être quelque chose qui doit nous booster, nous motiver encore plus, qu'on est entouré de haram, mais subhanallah, on va faire preuve de taqwa encore plus. Que comme on l'a dit dans l'introduction, s'éloigner du haram est encore plus vertueux que de faire de bonnes actions. Donc, vivre dans un contexte comme à La Réunion, où il y a le péché qui est partout, et malgré ça, on se retient, on s'abstient d'obéir à notre nafs, on contrôle le regard, on contrôle les oreilles, on contrôle nos paroles, on contrôle nos faits, nos gestes, on fait en sorte de rester dans l'obéissance d'Allah, c'est encore plus vertueux, il y a encore plus de valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hada. Donc voilà, petite réponse à ce jeune. C'est parce que le tchatcha qui vient me dire « Oh, mon enfant, écoute pas la musique, ça les haram, ça c'est shaitan », alors qu'on sait qu'il a bâti son bâtiment, son cas, son loto, depuis son lacet chaussure jusqu'à le bonnet, peut-être pas il a acheté Makkah. Depuis son lacet chaussure jusqu'à le col de sa chemise, c'est avec l'argent riba, l'argent haram. Certes, il y a ce péché en lui qui est plus grave que d'écouter la musique, mais en aucun cas de minimiser un péché. Le prophète dit un hadith, on terminera avec ça, hadith qui nous interpelle sur ce qu'on appelle nous les petits péchés. Le prophète dit, c'est comme quelqu'un, c'est comme un peuple, enfin un peuple, qawmun, c'est comme des gens qui arrivent dans un endroit et ils ont besoin de se réchauffer. Ils ont besoin de faire du feu pour se réchauffer, pour cuisiner. Chacun va amener une brindille. Chacun va amener un petit morceau de bois, mais en finalité, petit morceau de bois avec petit morceau de bois, ça fait un feu ardent. Pareil, un petit péché lundi, un petit péché mardi, un petit péché mercredi, et ainsi de suite. Au bout d'une semaine, il y a combien? Au bout d'un mois, il y a combien? Au bout d'un an, au bout de 10 ans, au bout d'une vie, ça fait des montagnes de péché, de seyyi'at. Donc ne jamais minimiser un péché, d'accord? Même si c'est quelque chose comme la musique qui est moins grave que l'intérêt, je dois certes comprendre que dans tout haram, il y a une désobéissance envers Allah. Dans toute chose haram, je m'éloigne d'Allah. Si c'est quelque chose de grave, je m'éloigne beaucoup d'Allah. Si c'est un péché qui n'est pas considéré comme un kabira, mais je m'éloigne quand même d'Allah. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on est d'accord de se dire que on s'éloigne d'Allah jour après jour? Ah. On va terminer, on va conclure avec le premier hadith de ce chapitre. Donc la quatrième catégorie de personnes, après avoir vu, donc le dernier c'était, l'homme dont le cœur est attaché à la masjid, et ensuite les gens qui s'aiment pour Allah, les gens qui s'apprécient, qui ont la muhabba, l'amour sincère pour Allah. On peut se dire que ça c'est simple. C'est sûr qu'on fera partie de ces gens. Mais je vous donne ma parole que ça, c'est très dur. Ça, c'est une des catégories. C'est aussi dur que Shabun Nasha'a fi ta'atillah. Autant on dit que comment on peut dire à un jeune aujourd'hui, fais pas zina, allez sort avec des amis, fais pas telle chose, c'est trop compliqué. Autant, effectivement, on se dit que c'est dur, c'est compliqué. Autant s'aimer pour Allah, c'est compliqué. C'est parce que ça, ça fait appel à la sincérité. Parce que aimer son prochain, l'amour, c'est où? C'est de le cœur. Et comme on l'avait dit l'autre fois, c'est pas un membre qu'on peut bouger. Non, c'est pas mon corps que je vais me réveiller pour faire tahajjud. Ça, je peux le faire. Je peux me forcer à le faire. Mais aimer son prochain pour Allah, c'est déjà reconnaître l'amour pour Allah, c'est apprécier son prochain, c'est faire preuve d'humilité. Ça, c'est dur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ça. Ça peut, dans toutes les catégories. Homme qui fréquente le masjid une fois de temps, homme pieux, savant, grand savant, des gens, ils ont une estime, une certaine idée de soi. À moi, c'est quelqu'un. Donc, quand on voit la personne en face, on le considère tout de suite comme inférieur. Mais si on considère quelqu'un comme inférieur, comment est-ce qu'on va l'aimer pour Allah? Aimer quelqu'un pour Allah, ça implique donc, je répète, de faire preuve de tawadu, d'humilité pour Allah devant les gens. Ça implique le fait également de ne pas regarder la couleur. De ne pas regarder les origines. Ali c'est un Gamalia, Ali c'est un Beysab, Ali c'est un Sourti, Ali c'est un Chimmaouré, Ali c'est un, je sais pas, Malagasy, etc. Là, wallah. Ça veut dire mettre de côté tout ça. Quand le Prophète m'a enseigné au Aous et au Khazraj que vous êtes des Ahlul Madina, vous êtes des Ansar. Et au Muhajir et Ansar que vous êtes des Sahaba. Que innama al-mu'minuna ikhwa. Et quand une fois il y a une petite accrochage, ça restait des êtres humains. Il y a un petit accrochage, quelqu'un veut dire Ya al-Muhajirin, oh les Muhajirin, aidez-moi. Parce qu'en face c'était Ansar, Ahlul Madina. Il a dit Ya al-Ansar, le Prophète était très en colère. Très en colère parce que les gens, ils se sont identifiés par rapport à un groupe. L'origine, couleur ou une race, et ils ont oublié la notion de iman, qu'on s'aime, qu'on s'apprécie pour Allah. C'est une des fois le prophète s'était mis extrêmement en colère. Donc tout ça c'est s'aimer pour Allah. C'est ne pas regarder quelle est la condition sociale de la personne. Est-ce qu'il est chômeur ou il est chef d'entreprise ou il est à la préfecture, donc on va beaucoup l'apprécier. Il travaille au conseil général, ça c'est mon poteau. C'est mon poteau, on dit nous le jour, non? Ben c'est les parisiens qui disent ça. C'est mon pote, c'est parisien, non? Ici aussi il dit, bon il commence, on nous fait tout comme banane de toute façon. D'accord? Lui il travaille tel machin, donc c'est mon ami. Ben lui, vous voyez, j'ai dit ça. Quelle famille? Quel gant? Pas rien, n'a pas d'histoire, pas d'historique, n'a pas de diplôme. Ben, lui, c'est un bicharo, d'accord? Donc, sans intérêt, on va pas l'appeler pour manger avec nous, pour cascaram avec nous. Ça aussi, dans la mafia, non? Ça aussi, il faut en parler un jour. Là, wallah. Aimer son prochain pour Allah, c'est mettre de côté tout ça. Et se dire que lui, il a la ilaha illallah, Muhammad Rasul de son cœur, donc c'est mon frère en islam. Tout le monde dit, mes frères, viens manger à case. Elle n'a pas dit pour manger de case, mon frère. T'as pu? Mon frère, c'est l'appellation, mais en réalité, c'est pas la wallah, Mustan. Ce n'est pas des reproches, un discours. On nous interpelle nous-mêmes. Ça, c'est notre mode de vie, malheureusement. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé bon de faire le lien de fraternité entre Muhajir et Ansar, c'est qu'il y a un travail psychologique extrêmement important pour unir les cœurs et pour arriver à l'amour d'Allah réellement, pour arriver à un degré de iman correct accepté par Allah. Et on verra les hadiths la prochaine fois. On se contentera peut-être d'un seul hadith. Un seul, on choisit. Man ahabba lillah, hadith d'Abu Daoud. Man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Ce qui nous intéresse, c'est la fin. A complété la foi, a eu une foi complète, celui qui aime pour Allah et qui n'aime pas pour Allah. Celui qui donne pour Allah et qui ne donne pas pour Allah. C'est-à-dire, il fait tout pour Allah. Et on retiendra le premier terme, aimer son prochain pour Allah. Tant qu'on n'aime pas notre prochain pour Allah, le iman ne sera jamais complet. Alors nous, on essaie de faire beaucoup de bonnes œuvres, a'mal bil jawarih, les actions extérieures. Mais c'est très bien, mais on essaie également de travailler l'intérieur. Aimer son prochain pour Allah. Qu'Allah nous accepte un tawfiq de comprendre. Il ne faut pas être trop long, comprendre ces quelques paroles. Et que, bon, le fait de s'aimer pour Allah, on verra ça, peut-être ça, inchallah, une prochaine fois, avant le mois de Ramadan. Mais si on peut ressortir de cette majlis, de cette assemblée, avec deux résolutions. La première résolution, c'est de faire preuve d'humilité et de voir le bon côté, les qualités qu'il y a chez mon prochain, mon frère en islam, essayer de voir les bonnes choses qu'il y a avec mon voisin, avec subhanallah le musulman qui est à côté de moi. Et quand on voit les bonnes choses, les qualités, les sifat, on essaie de faire comme lui, on essaie d'augmenter ma pratique. Ça peut être dans la sadaqa, la salah, la prière de la nuit, le dua, la lecture du Coran, le dhikrullah, bien sûr, des choses qui restent dans la sharia, suivant la sunna du prophète, d'accord. Et en même temps, quand on voit quelqu'un, une personne qui est dans l'erreur, on se dit premièrement, est-ce que cette erreur, je n'accomplis pas moi-même? On essaie de faire un check-up pour voir si je n'ai pas ce péché dans ma vie, essayer de l'éradiquer, l'enlever, et essayer de faire un pas vers la personne, le faire comprendre que ça, c'est une erreur, d'accord. Donc toujours essayer de monter de niveau, de se rapprocher d'Allah, et par rapport au péché, de s'éloigner le plus possible et demander à Allah tawfiq pour ces deux choses. Et deuxièmement, si inshallah on ressort de cette assemblée avec l'intention ferme de se réveiller demain, je suis sûr que la plupart d'entre vous le faites déjà, mais de se réveiller demain pour le qiyam ul layl, alhamdulillah, on aura grandement profité de ce majlis qu'Allah nous accepte pour ses bonnes actions. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.